Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 485 du podcast Touch en Actu. Alain Mathéi, très heureux de vous retrouver pour parler Super Bowl à mes côtés cette semaine. Alors, on va dire cette semaine, mais pendant ces trois jours, parce que c'est une preview sur trois jours qu'on vous a préparé. Victor Roulier est là, bonjour Victor.
Et bonjour Alain, bonjour à tous, bonjour Grégory.
Et bonjour Grégory Richard, voilà, Victor spoil tout de suite.
Tout à fait, bonjour Alain, bonjour Victor et bonjour à tous.
C'est donc Grégory Richard qui est le troisième homme sur cette présentation. Messieurs, on est donc réunis à trois exceptionnellement. D'habitude, les previews, c'est à deux, mais là quand même, preview exceptionnelle puisque preview du Super Bowl en trois parties. Trois personnes, trois parties, tout est très bien fait, hein. C'était entièrement calculé. On va parler donc du Super Bowl, trois parties. Ce lundi, en tout cas, c'est le jour de la mise en ligne, on va parler des Rams, on parlera des Bengals pendant la deuxième émission, et puis sur la troisième, on vous donnera toutes les clés, facteur X et pronostics du match. À chaque fois, on va vous expliquer pourquoi les Rams vont gagner le Super Bowl, pourquoi ils vont le perdre, et puis on parlera aussi un petit peu des belles histoires de ce match. Messieurs, un petit mot quand même en guise de préliminaire à ces émissions. Belle affiche pour ce Super Bowl. Inattendu, si tu dois mettre une note sur 10 à ce Super Bowl, Grégory, comment il te hype?
Quand même au moins un bon 7, malgré tout. C'est vrai que c'est pas forcément le Super Bowl sur lequel on aurait misé d'entrée, mais ça correspond aussi à une époque, ça correspond à la mise en place de nouveaux systèmes offensifs dans la NFL, dont sont garants, on va dire, dont se revendiquent les deux coachs qui vont y participer. On aura d'ailleurs face à face, j'anticipe un peu, mais les deux coachs, enfin en tout cas, en additionnant les âges des deux coachs, on aura les coachs les plus jeunes dans l'histoire du Super Bowl, donc c'est pas tout à fait anodin. Mais après, oui, une certaine hype, parce que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, même si on a l'air de désigner un favori plutôt qu'un autre globalement.
J'ai un 7 à ma droite, Victor.
Ça me paraît bien, 7. Moi, je vais le dire tout de suite, j'ai deux choses qui me hype sur ce Super Bowl. Déjà, j'aime pas voir tout le temps les mêmes équipes, donc ça me va bien que Kansas City ne soit pas une troisième fois de suite. Désolé pour eux, mais j'aime bien le changement. Et j'ai l'effet que j'appellerais l'effet Coupe de France. Tu sais, le petit poussé, moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est très français ça.
Il n'y a plus de petits poussés, on a dit, c'est pas des underdogs.
C'est vrai, pour une fois, ils ne clament pas être des petits poussés. Tout le monde n'est pas les Eagles, Victor, si tu veux. Il y a des gens qui ne font pas les victimes quand ils arrivent au Super Bowl.
Tout le monde ne gagne pas le Super Bowl, écoute, excuse-moi.
C'est vrai.
Ils devraient peut-être prendre exemple.
Ce sera peut-être l'autre différence. Attention à ne pas t'approcher trop près de ton micro quand même, Victor, ça crachote un petit peu. J'apprécie l'enthousiasme, mais attention au son quand même. Il faut rester tatillon. Bon, en tout cas, on est bien ambiancé par ce Super Bowl et on commence tout de suite avec les Rams.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time!
we gotta win it. We gotta start fast and finish strong. Yes, we gotta work on three. One, two, three, work.
C'est donc parti pour le Super Bowl avec les Rams. Un petit jingle qui vient de Los Angeles, hein, d'ailleurs, il faut le dire. C'est vrai que Rage Against the Machine, moi, ça m'aurait autant plu que le show. Mais il va être très, très bien. Hein. Mais Rage Against the Machine, ça vient de Los Angeles aussi. Ça aurait pu être pas mal. Bon, pourquoi les Rams vont-ils gagner le Super Bowl, messieurs? Nous avons sélectionné plusieurs raisons en commun. Et il y aura des raisons, évidemment, personnelles pour justifier les choix à venir. Mais la première raison qui nous semblait quand même assez évidente, messieurs, c'est parce que Los Angeles a la meilleure défense, en tout cas sur le papier. Los Angeles aligne Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller notamment. Les Bengals ont autorisé 51 sacks en saison régulière, pire total en NFL, et ils affrontent donc Aaron Donald, Von Miller, Jalen Ramsey. Est-ce que Joe Burrow est condamné d'avance? Grégory soulève ses sourcils. Ses yeux.
Alors, je soulève mes sourcils parce que je vais le dire d'emblée. On en a discuté bien entendu en off, tu l'as dit. C'est pas le statement, le point de vue sur lequel je suis le plus d'accord en l'occurrence.
Ah oui, faut préciser quand même. Attention, je précise oui. Avant que tu donnes tes arguments. Précisons ce qui se passe en coulisses. Je suis l'homme qui doit faire qui doit faire le putaclic et les questions qui fâchent. Et Grégory est la voix de la modération. Voilà. Moi, il faut que je vende un peu l'émission.
Non, mais l'idée, c'est pas de dire que les Rams sont pas une bonne défense. Après, de ce qu'on a vu pendant les playoffs, j'ai pas anticipé sur l'émission de demain. Ce qu'on a vu pendant les playoffs, les Bengals ont montré que défensivement, il y a quand même peu d'équipes qui arrivent à faire déjouer Mahomes de la manière dont ils l'ont fait déjouer. Donc voilà, c'était juste pour relativiser un petit peu de ce point de vue-là. Après, tu l'as dit, forcément, on a notamment vu que les Rams défensivement, parce que c'est vrai que on en revient toujours à ce fameux, c'est peut-être le syndrome des Rams éternel, le côté attaque spectaculaire. Faut vendre du rêve, aller, etc., etc. Donc, on s'intéresse forcément à l'attaque et à sa force de frappe. Défensivement, il y a des playmakers forcément qui, dans leur seul match-up, peuvent avoir un rôle éminemment important sur l'issue de cette rencontre. On a vu qu'ils ont été capables, et ça va être une donnée importante face à Cincinnati, de mettre à mal le jeu au sol des Niners. Mais ça, c'est pas du tout anodin. Donc, c'est pas uniquement le fait qu'ils sont dissuasifs sur le jeu à la course. Sur le jeu à la passe, pardon, mais même sur le run stop où leur exploit de linebacker peut paraître un peu légère par rapport à d'autres, ils arrivent largement à faire le boulot. Enfin, même si je pense qu'il y a un gros boulot de la D-line déjà de base. Donc, oui, de ce point de vue-là, on est d'accord. Ils ont sans doute les meilleurs playmakers défensifs et ils ont malgré tout une certaine polyvalence pour être à la fois performants contre la passe et contre la course. Je te rejoins là-dessus.
Pour revenir à Von Miller, Victor, est-ce que Von Miller est condamné? Il a pris 9 sacks contre les Titans, 2 contre les Raiders, 1 seul
Joe
contre
Burrow,
les Chiefs.
Tu veux dire.
Joe Burrow, j'ai dit qui?
Von Miller.
Von Miller. Okay,
je pense que Von Miller sera dans le rôle du Burrow.
D'accord, c'est l'âge. Donc Joe Burrow, 9 sacks contre les Titans, 2 contre les Raiders, 1 seul contre les Chiefs, ça fait 12 en 3 matchs. Le positif, c'est que ça descend au fil des matchs. On a dit qu'il s'adaptait bien. Mais quand même, on se dit qu'il y a probablement un des meilleurs défenseurs de l'histoire en face.
Oui, il y a un top 5 meilleurs défenseurs de l'histoire en face, mais il n'empêche qu'on disait que Jaren Reed et Chris Jones seraient la fin de Burrow, ça l'a pas été. Je pense que les sacks, c'est une statistique qui est un peu désuète d'une part, et en plus qui est co-responsabilité de la ligne et du quarterback. Et on a bien vu que s'il en a pris que 2 en finale de conférence, c'est pas particulièrement que la ligne a été meilleure, mais que Burrow s'est débarrassé du ballon plus vite. Donc, je pense que là, il faudra aussi avoir cette intelligence de dire « Ok, il y a Miller qui arrive, il y a Donald qui arrive, il y a Floyd qui arrive ou quiconque d'autre, je balance la balle, tant pis. » Mais je balance la balle dehors, hein, je veux dire, pas balancer dans le sens lancer un Aymeri. Mais du coup, il va avoir de la pression, c'est presque sûr. Oui, cette ligne défensive des Rams, elle est meilleure que la ligne offensive des Bengals. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà compris. Il va falloir prendre les opportunités que la défense laisse, mais oui, la défense des Rams est la meilleure sur le plateau, surtout le front seven.
Enfin, s'il ne lui laisse pas beaucoup d'opportunités, au bout d'un moment, ça va être compliqué de suivre le rythme. Moi, c'est ça l'idée. Il est quand même constamment sous pression. Donc,
Si McVay ne marque que 3 points, le rythme, il sera facile à suivre.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que... Et ça aussi, on avait le doute quand... Les stars un peu free agents, style notamment Von Miller, sont arrivés en cours de saison parce qu'on a vu que ça a mis du temps à se mettre en place. Il me semble que Von Miller est sur une moyenne d'un sac par match depuis la bonne période des Rams. Et sur la même période, Aaron Donald, c'est quasiment un sac par match aussi. Donc là, en l'occurrence, il va falloir que le plan de jeu de la ligne de Cincinnati soit bien, bien établi parce que, a priori, les deux hommes sont assez énervés sur le front seven. Ouais.
Et s'il a un peu de temps de jeu au bureau, ça, c'est pas beaucoup plus facile non plus parce qu'il y a Jalen Ramsey en couverture et qu'il y a du monde. Alors, est-ce qu'on va avoir Jalen Ramsey face à Ja'Marr Chase un contre un tout le match?
Oui, c'est probable. Alors, un contre un, pas forcément. On aura Ramsey sur Chase. Après, on sait que sur des couvertures simples, Chase est particulièrement efficace. Donc, Ramsey aura peut-être l'aide d'un safety de temps en temps selon les schémas de jeu en face. Mais il y a quand même... Il n'y a pas que Chase à surveiller. Il y a Uzoma, il y a Boyd. Il y a Higgins, évidemment, qui sont en plus des profils très variés. Ils ont un peu tous leurs spécificités. C'est pas par exemple comme à Kansas City où tous les receveurs se ressemblent un peu. Là, non, c'est quand même très varié. Donc, il va falloir vraiment adapter les schémas de jeu au personnel qui se présente en face. Mais c'est sûr que Ramsey Chase, bon, on anticipe un peu sur une autre preview, mais ça sera un des duels suivants.
Arrêtez de dire on anticipe, on reparlera de certains trucs, hein, ça va se chevaucher, on parle des deux équipes. Hein. Juste, Greg, je reviens sur ce que tu disais, ils ont bien stoppé les 49ers au sol. Là aussi, les Rams semblent avoir l'avantage dans le match-up au sol.
En tout cas, ils ont des sérieuses armes pour faire déjouer un jeu au sol. Je sais pas, parce que... C'est vrai que derrière le duo Burrow-Chase, on a tendance à un petit peu l'oublier, mais à chaque fois que Joe Mixon est assez massivement impliqué dans le jeu au sol, ça se passe quand même assez souvent bien pour Cincinnati. Et encore une fois, ouais, il y a quand même déjà une D-line, en plus de par ce qu'on évoquait sur le pass rush, à savoir le fait de potentiellement pouvoir prendre le dessus, elle peut avoir un rôle doublement important parce qu'elle est capable en effet de s'inviter dans la poche et du même coup de contrer très rapidement Joe Mixon, de vraiment l'annihiler d'entrée. Et voilà, là. L'avantage, oui, il peut avoir un avantage là-dessus, mais il faut voir comment, je pense que les premières minutes du match vont être importantes en ce sens. Tu remarqueras que j'ai toujours du mal, je jongle avec la mesure, c'est très compliqué, mais oui, en tout cas ils ont des clés indéniables. L'avantage serait certain, j'aurais du mal à m'avancer totalement là-dessus.
Un jour j'arriverai à extirper une phrase très péremptoire de Greg. Je sais pas quand, mais un jour j'y arriverai. Un jour,
la dernière fois que je l'ai dit sur le head coach des Bengals, j'en ai entendu parler.
Ouais, c'est vrai. Un jour j'essaierai de lui faire dire un truc définitif comme ça, qu'on pourra mettre, tu vois, sur le, parce que on va avoir aussi notre stratégie réseaux sociaux, donc on mettra des phrases extraites de l'émission, tu vois, et donc avec des trucs très très clash, quoi. Donc, bon, je sais pas si on arrivera souvent à avoir Greg dans cette rubrique.
Je vais y travailler.
C'est pour ça que je suis obligé d'être clivant. Mais vous voyez, le principe de l'émission, c'est ça. Je balance un truc un peu raide, et puis après, derrière, ça module, évidemment, et parfois, ça va même.
Non, mais je serais pas du tout surpris, ouais, clairement, qu'ils annihilent potentiellement le jeu seul. Encore une fois, on a vu qu'ils étaient capables de le faire. J'ai pris l'exemple des Niners. Bon, on a vu qu'à d'autres occasions, ils étaient capables de le faire aussi. C'est une équipe qui est plus dangereuse sur le jeu contre la passe, à mon sens. Et pour revenir, là aussi, je veux pas anticiper, même si on va se répéter, le duel Chase-Ramsey. J'ai pas dans l'idée, sans remettre en cause ce qu'a proposé Ja'Marr Chase et les squads de receveurs de Cincinnati, j'ai pas dans l'idée qu'ils aient affronté les meilleures paires de corners de la ligue jusque-là. Sans vouloir faire un jour aux Raiders, aux Titans et aux Chiefs, je pense qu'il y a quand même des duos de corners et surtout des cornerbacks numéro un beaucoup plus établis dans la ligue, que Jalen Ramsey globalement arrive à donner à fournir des bonnes copies face à des receveurs numéro un qu'il suit quand même d'assez près. Donc on sait que Ja'Marr Chase peut avoir un rôle extrêmement vaste, hein. Il peut sortir du backfield s'il y en a besoin, mais oui, c'est, voilà, là-dessus il peut clairement avoir un impact sur le jeu au sol, d'autant plus s'il peut avoir un corner pour surveiller efficacement le principal receveur adverse.
Victor, un mot sur cette opposition, avantage Rams ou pas au sol?
Non, pas forcément. Moi je dirais que ça fait partie des 50-50 qui décideront d'ailleurs peut-être du sort du match. Mixon, en fait, c'est très variable, mais il y a des jours où il est vraiment inarrêtable. Donc,
il a que 3 matchs à plus de 100 yards cette année.
Oui, mais bon, en sortie de backfield, il peut être précieux aussi. Et mine de rien, il y a quand même un comité de quoi, parce que Mixon est le vrai leader. Hein, on est clairement pas, voilà, on est, on n'a clairement pas de doute, mais il y a Perrine, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent apporter. Et je pense que le jeu au sol a une vraie chance parce que les schémas de jeu des Rams vont devoir quand même mettre du monde derrière pour justement défendre toutes les cibles. Et il ne va pas y avoir 8 joueurs dans la boîte. Donc non, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour les Bengals.
En tout cas, les Rams sont la 5e défense au sol de la Ligue avec 4 yards par course autorisés. Autre motif, autre raison pour laquelle les Rams vont gagner le Super Bowl, c'est parce qu'ils ont des stars, mais aussi un effectif très profond. On n'a pas encore parlé de Matthew Stafford, Cooper Kupp, Odell Beckham, etc. Mais si je vous dis Eric Weddle, Kendall Blanton, Van Jefferson, est-ce qu'on peut dire que les Rams sont l'effectif le plus complet ?
Ça peut en faire partie, déjà d'une part, parce que ils ont eu malgré tout cet avantage. Alors, c'est vrai qu'il leur manquait, par exemple, Andrew Whitworth contre Tampa Bay, mais ça s'est pas particulièrement ressenti. Comme ça avait été souligné, son remplaçant du moment avait rendu une bonne copie. Ils ont, en effet, un groupe qui apparaît assez complet, parce qu'on regarde beaucoup les stars, mais voilà, même, avec peu de choix de draft, hein. J'entends d'ici Raphaël dire ça sert à rien. Il y a un peu deux écoles qui s'affrontent sur ce Rams Bengals d'ailleurs pour le coup, mais oui non, je te rejoins. C'est sûr que ils ont malgré tout a priori des joueurs qui, quand il faut faire appel à eux, quand il faut sortir de l'ombre, prennent le relais. Tu parlais, il me semble avoir entendu Kendall Blanton. Mmh. Quand on a vu Tyler Higbee sorti sur blessure, on s'est dit ah mince. Même si la hiérarchie des cibles de Stafford a l'air assez bien établi et que Higbee n'est pas forcément le numéro 1, ça peut quand même être embêtant sur certaines phases de jeu, et pourtant pas du tout. On voit que derrière on arrive à trouver d'autres solutions. Je parle même pas du poste de running back où ça reste assez interchangeable également, mais oui je te rejoins totalement. Il y a en tout cas une profondeur qui peut être salvatrice s'il y a besoin de temps en temps, et puis même sur équipe spéciale, parce que c'est-à-dire qu'on a des joueurs pleinement impliqués sur quelles que soient les phases de jeu, et ça peut forcément être une clé importante au crédit en tout cas de Los Angeles.
Je me permets d'ailleurs sur l'histoire des deux écoles, mine de rien, on dit les Rams n'ont pas de choix de draft. Ils n'ont pas de choix de draft du premier tour, mais ils utilisent bien la suite parce que Van Jefferson, Tyler Higbee, Kendall Blanton, Cooper Kupp, Cam Akers, c'est des mecs qu'ils ont choisi eux-mêmes.
On est d'accord.
Blanton, j'espère que je ne dis pas une bêtise, il est rookie. Mais oui, c'est ça, hein. il est non drafté ou il est de...
Kendall Blanton, je t'avoue, je me rappelle même pas de ça.
Je pense qu'il est non drafté.
Je pense qu'il est non drafté, oui, parce que je vois pas de tour en fait dans les stats là.
Je pense que j'avais un doute sur le fait qu'il était rookie, mais je te fais confiance.
Ouais, il est rookie, ouais, first season, d'accord. Ça je l'ai. Mais en tout cas, oui, Higbee, Jefferson, donc mine de rien, ils draftent bien. Ils ont pas les choix du premier tour parce qu'ils les jouent, mais ils draftent bien. Donc finalement, c'est pas totalement une opposition d'équipe qui veut pas de choix de draft. C'est une équipe qui utilise ses choix de draft haut pour avoir du sûr. Parenthèse fermée, Victor, effectif le plus complet et ou en tout cas l'équipe qui sait le mieux utiliser la profondeur de son banc.
Non, effectif le plus complet, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Il suffit de voir en effet sur les lignes que tu prends les remplaçants sur les lignes offensives défensives des deux équipes, tu te rends vite compte que les Rams, il y a des réserves, alors que les Bengals, en fait, ils sont très dépendants de certaines stars qui doivent apporter le maximum. Donc oui, l'effectif est meilleur, ça c'est sûr. Après, je dirais, on a pris un peu l'exemple des receveurs avec Kupp, etc. Receveur, c'est peut-être le poste où ça se vaut, mais sur l'ensemble d'une équipe, oui, c'est sûr que les Rams sont un effectif et des stars peut-être plus brillantes que peuvent avoir les Bengals. En tout cas, enfin, médiatiquement, Burrow, ça reste très fort, hein, mais Burrow et Chase. Mais bon, les Aaron Donald et Ramsey. Même Whisworth, qui est maintenant le joueur le plus vieux de la Ligue. Hein. Merci Tom Brady. Whisworth est maintenant le joueur le plus vieux de la Ligue, puisqu'il a 40 ans. Et,
après, je pinaille, mais c'est parce qu'il est encore en course. En vrai, s'il prend sa retraite à la fin de la saison, c'est kiff-kiff.
Oui, non, bien sûr. Mais l'effectif le plus complet, ça reste celui des Rams. Je suis d'accord que l'absence d'Higbee risque d'être un problème, mais bon, ça reste... D'ailleurs, je crois qu'en finale de conférence, il n'avait du coup plus qu'un seul tie-end dans le roster, je suppose qu'ils vont en rajouter un, mais je ne sais pas qui.
Higbee, en effet, qui ne s'entraîne toujours pas au moment où on enregistre. Tu l'as dit, Odell Beckham, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller, etc. Il y a beaucoup de stars, évidemment. Il y en a encore un peu plus que Cincinnati, qui sera plus dépendant des siennes. On en parlera dans l'émission consacrée à Cincinnati, notamment. Le dernier point qui fait que Los Angeles va gagner, c'est évidemment ces stars, ces vétérans, qui en plus sont en mission. Alors là, on va être un petit peu plus dans le côté psychologie et supposition, mais il y a beaucoup de ces stars-là qui n'ont pas de bague et qui ont quand même beaucoup d'expérience. Odell Beckham, Aaron Donald, Jalen Ramsey n'ont pas de bague. Von Miller est un peu arrivé en guide quasiment parce que lui, il en a une. Il a été MVP du Super Bowl en plus. C'était le 50e Super Bowl. Andrew Whitworth n'a pas de bague. Enfin voilà, il y a quand même ce truc-là.
T'as quand même oublié le meilleur quarterback de moins de 44.
Je croyais avoir cité Matthew Stafford, pardon. Donc voilà, Matthew Stafford en plus qui est venu pour ça à Los Angeles. Est-ce que c'est un atout? En tout cas, il y a quand même ce côté, ils ont été construits pour ça, ils sont en mission pour ça depuis le début de l'année, quoi. Donc ils vont pas se relâcher maintenant.
Ah bah, c'est sûr que globalement, pardon, j'ai coupé la parole de Grégory.
Non, vas-y.
Ne m'en voudra pas. Mais pour le coup, Burrow et Chase, s'ils ne gagnent pas cette année, ils ont théoriquement 15 ans pour le gagner. Sans faire injure à Whitworth, à Stafford et compagnie, ils n'ont pas 15 ans devant eux. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté un peu dernière chance. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi un facteur dans le sens beaucoup de pression alors que les autres ont finalement pas rien à perdre, mais on va dire un enthousiasme de la jeunesse de dire « bon, bah, si on gagne maintenant, tant mieux, si on gagne plus tard, tant pis ». Mais oui, je pense qu'ils sont en mission, ils ont construit cet effectif pour gagner maintenant, pas pour gagner sur les 5 prochaines années. Hein. La fenêtre, elle est de 1, maximum 2 ans si on étire, quoi. Mais pas beaucoup plus. Donc clairement, c'est leur stratégie. Je pense qu'ils ont raison parce qu'en effet, il n'y a pas de stratégie à 3-5 ans, ou en tout cas très rarement. Donc voilà, ils ont tout fait pour gagner. Ils y sont à eux de conclure.
Ouais, je ne vais pas rajouter énormément de choses en plus, mais c'est sûr que oui, en plus dans ces joueurs qu'on a fait venir en mission, encore une fois, il y a quelques joueurs qui vont être en fin de contrat, en fin d'année. Donc oui, comme le disait Victor, pardon, c'est presque maintenant ou jamais. Et là, très franchement, dans un match où tu es favori alors que tu as passé tout ton mois de décembre à courir après les Cardinals et tout ton mois de janvier à faire des déplacements pour aller te qualifier pour le Super Bowl, avoir une opportunité comme celle-là et se dire que malgré la qualité de l'adversaire, t'as la possibilité de conclure et de l'emporter à domicile, parce qu'ils auront quand même l'avantage logistique de jouer à la maison malgré tout, hein, même si on sait que à Los Angeles, avec un public peut-être un peu accommodant, voilà, pas très intéressé.
Ouais, de toute façon, le public du Super Bowl n'est pas non plus.
Oui, ouais, plus, le voilà, public du Super Bowl, en général, est rarement acquis à une équipe. Ouais. C'est 17%.
Mais je pense.
Et puis le reste.
Mais je pense que même si on était dans un contexte un peu particulier l'an dernier, je pense qu'il y aura quand même moins de fans des Rams du côté de Los Angeles que des Bucks du côté de Tampa Bay l'année dernière.
Non, mais c'est vrai sûr. qu'après, le côté logistique, en effet, est plus serein pour eux. Sachant qu'en plus, moi, j'avais complètement oublié, mais les autres années, les équipes arrivent le dimanche ou le lundi sur place pour être là pour le Media Day, etc. Mais comme le Media Day n'est plus en physique, par exemple, les Bengals n'arrivent que le mardi, je crois, sur site, ou presque le jeudi, je sais plus. Mais en fait, ils vont arriver comme pour un match normal. Il n'y aura pas ce côté pression du Super Bowl, etc. Alors, ça peut peut-être aider l'équipe qui est à l'extérieur. Mais du coup, c'est la domicile restera plus longtemps dans ses habitudes aussi. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Je rappelle quand même, je disais qu'il y a beaucoup de ces joueurs qui courent après une bague. Odell Beckham n'était pas là pour le premier Super Bowl, Jalen Ramsey non plus, Andrew Whitworth était déjà là, Cooper Kupp n'a pas joué, il était blessé quand ils perdent le Super Bowl en 2017-2018. Donc en fait, Sean McVay et Aaron Donald ont un peu ce Super Bowl en travers de la gorge là contre les Patriots. Donc il y aura un peu de revanche pour eux aussi. Je pense qu'ils ont connu le match, ça fait un atout supplémentaire.
Non, et puis très clairement, encore une fois, on a affaire à des joueurs caractériels. Je veux dire, tu prends deux joueurs comme Odell Beckham ou Jalen Ramsey qui aime bien faire taire un petit peu, alors plus Odell Beckham encore une fois qui aime bien faire taire les critiques. On sait qu'il a eu une année extrêmement compliquée au budget avec son départ de Cleveland. On l'a fait un peu partir comme un malpropre, enfin en le faisant passer pour le sale gosse. Je pense qu'il a aussi un petit peu entretenu cette image, même si on n'est pas totalement en interne de ce qui s'est passé du côté de l'Ohio. Voilà, là c'est pareil, ça rejoint ce que je disais, c'est une occasion en or pour faire taire les critiques, et c'est des joueurs qui peuvent être précieux, notamment dans des moments clutch. On l'a vu face aux Niners, les Rams c'est pas parfait sur 4 cartons, mais dans le dernier quart, quand il faut faire des jeux décisifs, notamment en défense, ils ont des joueurs d'expérience pour le faire, donc c'est clairement à mettre à leur crédit.
T'imagines qu'en 2 ans, on pourrait avoir Antonio Brown et Odell Beckham titrés coup sur coup. Là, c'est... Ouais, ce serait une belle année pour les receveurs. Un argument perso chacun, messieurs, qu'on n'a pas encore cité. Pourquoi les Rams ont gagné le Super Bowl, Victor?
Ah, c'est moi en premier, c'est dur ça. Pourquoi les Rams ont gagné le Super Bowl? Parce que la ligne défensive des Bengals, qui est une des peut-être un des atouts de cette équipe, elle va être annihilée. Et là, je prends parti, hein. À chaque podcast, faut prendre parti. Donc, ouais. Elle va être annihilée par cette ligne offensive des Rams. Et du coup, ça peut permettre à l'attaque des Rams de dérouler. J'expliquerai totalement inverse dans le prochain podcast pour les Bengals. Mais, je pense vraiment que cette ligne offensive, elle est meilleure que beaucoup le pensent, dont moi avant les playoffs. Et ça peut vraiment être la clé parce que si Stafford dans un fauteuil, bon.
Avantage ligne offensive des Rams. Grégory, pourquoi les Rams vont gagner?
Sans faire trop de doublons avec ce qu'on a dit, pour moi, une des clés éternelles et encore plus en playoff, c'est les tranchées. On a déjà évoqué notamment le pass rush des Rams qui peut en effet donner des cauchemars à cette O-line des Bengals et à Joe Burrow. Et je rejoins ce qu'a dit Victor. C'est vrai que la ligne offensive des Rams paraît la moins inquiétante des deux, mais globalement, on laisse quand même pas mal de temps à Matthew Stafford en fonction des situations. Même face aux Niners, je trouve qu'elle a progressé petit à petit au fil du match et ça a coïncidé aussi avec le retour en forme de Los Angeles, en tout cas avec le fait de recoller. Donc, les tranchées, ça peut clairement être un domaine où les Rams peuvent marquer leur territoire et faciliter leur route vers le.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On fait Lombardi.
On l'a dit tout au long des playoffs, les Rams ne sont pas une équipe parfaite. Aucune équipe n'est parfaite, évidemment. On l'a vu, ils ont des arguments pour gagner, mais il y a aussi des choses qui pourraient les faire perdre. Pourquoi vont-ils perdre, messieurs, ce match? Qu'est-ce qui va les planter? Est-ce qu'on commence par le jeu au sol? 283 yards en trois matchs de playoffs, 2,9 yards par course, 2 fumbles perdus. C'est pas folichon. Si jamais il y a de la pression sur Matt Stafford, ça n'a pas l'air d'être ce qui va les sauver, Grégory.
Non, alors après ça dépend toujours, c'est vrai que c'est deux profils extrêmement différents, on a vu que Sonny Mitchell par exemple pouvait plus apporter sur le pass pro, hein, pour prendre notamment l'exemple de la protection et du temps offert à Matthew Stafford. Maintenant ce qui m'inquiète, je pense que les Rams de toute façon ils sont dans cet état d'esprit depuis maintenant quelques mois, enfin depuis le départ de Todd Gurley concrètement, d'être dans un backfield de comité. Donc après, ils s'en accommoderont du mieux possible. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et pour revenir à ce que tu disais, c'est la protection du ballon. Et c'est peut-être ça la principale différence avec Cincinnati. Et sans vouloir trop cibler, c'est vrai que Cam Akers, malheureusement, avec tout le talent, enfin c'est un joueur que j'aimais déjà du côté de Florida State, mais c'est vrai qu'il a ce petit défaut. Peut-être pas encore une Antonio Gibsonite aiguë, mais voilà, cette on sent qu'il n'y a pas une protection du ballon qui est idéale. On l'a vu du côté de Tampa où ça a contribué à redonner clairement le momentum à l'équipe en face. Et face à un quarterback comme Joe Burrow et une attaque comme Cincinnati, il ne faudrait clairement pas que ce soit le cas. Et on l'a vu en finale de conférence AFC. Donc, c'est plus dans cet état de fait que je surveillerai ça. Après, voilà, les Rams, de toute façon, vivront avec le jeu à la passe massivement, je pense, en attaque. Mais c'est vraiment plus d'un point de vue protection du ballon et éviter au maximum les pertes de balles.
D'autant qu'il est blessé à l'épaule, hein, Cam Akers. Il ne s'est pas entraîné la semaine dernière. Victor, inquiété par ses pertes de balles
on
parle rendement en général d'ailleurs.
Non, on m'a piqué ma punchline, mais oui, je pense que je vais rien apprendre à personne en disant que la bataille des turnovers est fondamentale. Les Rams ont eu la chance de gagner un match en perdant 4 ballons, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et ça, c'est sûr que la protection du ballon. Et j'ai envie de dire, la protection du ballon par les coureurs, oui. Et puis aussi les interceptions, parce que Matthew Stafford, que j'adore personnellement depuis le début de sa carrière, mais alors quand il pète un plomb, il peut aussi péter un plomb. Donc, s'il commence à balancer trois saucisses et à faire une rich cannon, comme pour les plus vieux d'entre nous, là, ça peut vite être compliqué. Donc, oui, des pertes de balles sont fondamentales. Il faut que les Rams limitent ça au maximum.
Est-ce que Sean McVay peut être celui qui fera perdre le Super Bowl aux Rams? Je passe à un deuxième point. Il y a eu des temps morts grillés dans tous les sens en finale de conférence. Il y a eu un manque d'audace un petit peu contre les Buccaneers, ou en tout cas des appels de jeu qui n'ont pas été récompensés par Cam Akers et les pertes de balles, parce que c'est vrai que si Cam Akers n'avait pas lâché le ballon, bon, on parlerait moins des choix de jeu de Sean McVay. Mais en tout cas, on ne l'a pas senti d'une grande sérénité pendant ces playoffs, Sean McVay. Est-ce qu'il pourrait coûter le match? Est-ce que c'est finalement, je ne vais pas dire un point faible, ce serait très fort, mais en tout cas, pas un point fort ou un point qui les met au-dessus, en tout cas.
Ah bah, l'arbre de coaching Shanahan, au Super Bowl, ce n'est pas toujours… Parce que Shanahan fils, il a quand même perdu deux Super Bowls de manière assez incroyable. Et McVay, il en a perdu un aussi en étant assez ridicule. Donc, c'est vrai que c'est un vrai débat. Normalement, McVay est censé être un coach incroyable, surdoué, etc., tout ce qu'on veut. C'est aussi une revanche personnelle pour lui. Il va falloir qu'il prouve qu'il sait faire. Alors, pour le coup, il a une attaque totalement différente d'il y a deux ans. Parce qu'il y a deux ans, il avait une attaque très portée sur la course, sur des petites passes, etc. Il n'avait pas un canon comme Matthew Stafford. Donc, c'est sûr que l'approche de jeu sera totalement différente. Mais des opportunités, normalement, avec la défense des Bengals, il va en avoir à lui désexploiter. Et c'est vrai que on sait comment marchent les médias. Hein. Il se plante une deuxième fois au Super Bowl. Il va y avoir tout un tas d'articles pour expliquer que c'est un loser, qui gagnera jamais, que machin, que truc. Quand tu vois qu'Andy Reid est un loser alors qu'il a fait 9 finales de conférence, tu
te dis, voilà. Ça, c'est pas les médias, c'est Twitter. Hein. Oh. Faut pas confondre les deux. J'ai vu aucun article qui dit qu'Andy Reid est un loser. Là, tu confonds avec les mecs que tu lis dans ta timeline.
Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, je pense que je pense pas que théoriquement, il soit un point faible, mais par contre, il joue très, très gros. Ça, c'est sûr. Et ça peut se ressentir à un moment. On sait que ce n'est pas le mec le plus audacieux du monde. Donc, attention à ne pas nous faire comme face aux Buccaneers ou autre. Ah, bah, je suis devant, du coup, je fais course droite, course gauche, course droite. Je suis obligé de punter. Et finalement, les Bengals de Joe Burrow, ils arrivent et ils gagnent à la fin. Donc, attention, un peu d'audace, ça ne lui fera pas de mal.
Avec de l'audace.
Oui, je rejoins Victor dans le sens où je pense que le scénario va avoir une part importante dans la manière de juger, avec des grosses guillemets, Sean McVay. En effet, si les Rams mènent au score, on va être assez curieux de suivre ça, parce qu'on a eu les Rams d'un côté qui ont mené largement face à Tampa, puis qui ont laissé très très clairement le momentum à l'équipe en face. Et à l'inverse, Cincinnati, qui avait entre guillemets match perdu à la mi-temps contre Kansas City et qu'on démontrait toutes les ressources pour revenir derrière. Donc, c'est vrai que ça va forcément être quelque chose au niveau de l'état d'esprit qui peut être à suivre. En effet, il va falloir qu'ils tirent aussi les erreurs du dernier Super Bowl. Après, on n'est clairement pas dans le même contexte. Il faut rappeler que lors du dernier Super Bowl, les principaux problèmes étaient offensifs. Sachant que, du fait de la présence de Jared Goff, le jeu au sol était plus important du côté des Rams et qu'on avait cet imbroglio permanent avec la blessure, pas blessure de Todd Gurley, ce qui a clairement plombé la post-season des Rams, dont ce Super Bowl-là. Là, on l'a dit, le backfield offensif, ça restera un élément important pour l'obtention du Super Bowl, mais voilà, il faudra voir aussi si Sean McVay s'obstine pas un petit peu aussi, s'il voit que son jeu au sol est un petit peu en dilettante. Voilà, peut-être pas enterrer son jeu au sol non plus, mais pas lui-même se mettre dans un état d'esprit justement où voilà, il faut que je reste sur ce plan de jeu coûte que coûte, il faut que voilà, pas rester dans un jeu un petit peu stéréotypé, puisqu'on a vu que la défense de Cincinnati est capable de s'ajuster et qu'elle pourra en profiter comme elle l'a fait en finale de conférence notamment.
Retour en défense, est-ce que finalement les Rams ne vont pas perdre parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour couvrir Jamar Chase, T. Higgins, CJ Uzoma, Tyler Boyd, Joe Mixon? Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de cibles hein, quand même du côté de Cincinnati. L'un d'entre vous le disait, on parle beaucoup de Jamar Chase, mais il y a beaucoup de monde finalement à couvrir du côté des Rams.
Oui, on est sûr que CJ Uzoma jouera. J'ai vu la news.
Normalement, oui. Normalement,
ça semble bien parti.
D'accord. Ouais. Bon, tant mieux pour Cincinnati. Après, est-ce qu'il y a des gens pour les couvrir? Bah, tu parlais notamment du fait qu'ils ont fait venir Eric Weddle. On a vu qu'il y a un Nick Scott, notamment, qui a montré des bonnes choses ces dernières semaines sur le poste de safety, alors que c'était à peu près tout sauf leur valeur sûre, pendant la saison régulière. Darius Williams fait une moins bonne saison qu'en 2020, mais on voit qu'il est quand même capable de défendre en un contre un. Donc, si c'est lui, par exemple, qui est plus souvent contre Higgins, ce serait pas forcément déconnant. C'est pas un total point fort si tu sors de l'équation de Jalen Ramsey, mais de là à les mettre en point faible, je sais pas. Je pense qu'ils ont quand même la possibilité de pouvoir contrer cette escouade-là, même si on a vu qu'il y avait énormément de solutions. Ils peuvent être mis en difficulté, mais je sais pas si c'est une des raisons, en tout cas, qui pourrait les faire perdre.
Victor, est-ce qu'ils vont être débordés sur le plan aérien?
Non, pour le coup, je rejoins Darius Williams. Je pense que c'est sur ces trois dernières saisons, c'est le meilleur cornerback numéro 2 de la ligue, quasiment. Alors oui, cette saison, c'était un peu plus difficile, mais sur un match, il peut tout à fait étouffer son vis-à-vis. Il y a Tyler Rapp aussi, bon, qui sera peut-être pas le meilleur atout en couverture, mais qui est là en safety, qui est plutôt bon.
Jordan Fuller qui fait une bonne saison, que j'ai pas cité aussi.
Non. Donc, non, je pense qu'il y a du monde, donc ça va être un vrai défi. Mais ils ont des armes pour contrer. Je pense pas que ça soit d'emblée un point faible.
Ils vont donc être très durs à prendre. Continuez à suivre ces émissions previews.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On termine sur une note un peu plus légère, cette preview du Super Bowl des Rams. Messieurs, je vais vous soumettre quatre histoires. C'est très simple. Je vous soumets quatre histoires et vous me dites laquelle vous préférez. Vous n'avez le droit de choisir qu'une. Je vous préviens parce qu'il y en a plusieurs qui sont plutôt mignonnes. Côté Rams, Matthew Stafford, numéro 1 de la draft 2009, aux Lions de 2009 à 2021. Première saison dans une équipe digne de ce nom. Possibilité de gagner son premier titre à 33 ans. La deuxième histoire, Aaron Donald, meilleur défenseur de sa génération, parfois prétendant au titre de MVP, possibilité de gagner son premier titre. Troisième histoire, Odell Beckham, transfuge en cours de saison, qui pourrait décrocher son premier titre et donner tort quand même à pas mal de monde. En effet, on l'avait un peu enterré pendant la saison. Et puis enfin, le possible dernier match d'Andrew Whitworth, ancien des Bengals, tackle de 40 ans, qui pourrait gagner son premier titre contre son ancienne équipe avec laquelle il avait quand même pas mal souffert, parce que quand il y était, Andrew Whitworth, les Bengals, c'était pas tout à fait les Bengals d'aujourd'hui. Quelle histoire vous préférez entre ces quatre-là pour les Rams?
Je vais laisser Grégory choisir, moi j'en ai deux là.
Ah, t'as le droit d'en avoir
qu'une.
Du coup, j'attends de voir ce que tu choisis.
Lui, c'est mec qui triche au jeu de société, tu sais. Non, mais moi, je préfère celle-là. Ouais.
J'attends de voir ce que tu choisis.
Qu'est-ce que je vais choisir? Je choisis Matthew Stafford, ouais, charmé. Enfin, bon,
en la disant, je me disais, en fait, Greg, il peut pas choisir autre chose.
C'est pour ça, je t'ai laissé continuer. J'ai fait, de toute façon.
Donc, meilleur quarterback de moins de 34 ans, assurément, quoi, s'il gagne ce titre en plus.
Ouais, c'est ça. Non, mais. Enfin, oui, il y a une belle histoire dans le sens où, encore une fois, enfin, après, le but du jeu, c'est pas de s'acharner sur Détroit. Il y a eu des playoffs qui ont été joués avec les Lions, mais on a toujours vu. Enfin, mine de rien, Matthew Stafford, ça a souvent été. Alors, cette année, on me dira, oui, il y a eu Cooper Kupp, etc., etc. Mais Matthew Stafford, ça a toujours été le quarterback qui réussissait grâce à Calvin Johnson aussi. Il a souvent eu cette étiquette-là. Et même après la retraite de Johnson, on a vu que, voilà, il a ces moments où. Il a une certaine irrégularité. On l'a vu encore une fois sur certaines rencontres cette saison. Je repense notamment aux Titans et aux Vikings. Hein, c'est les exemples qui reviennent le plus souvent. Il a des trous d'air qui sont indéniables. Mais globalement, voilà, c'est aussi un joueur, je trouve, qui représente un style assez spectaculaire dans la ligue. Ça a été, je trouve, un précurseur. Faut pas exagérer, mais en tout cas, je trouve qu'il dans ce jeu très vertical, c'est souvent un joueur qui est pris en exemple. Et voilà, il a souvent eu de facto et par rapport au parcours des Lions, notamment cette étiquette de loser. Et c'est vrai que le côté réussir, même s'il y a bien entendu, il y a un environnement, un entourage qui permet d'être beaucoup plus intelligent. Voilà, on voit aussi qu'il y a une belle revanche qui est prise de sa part. et que en playoff, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit lui, ce qui pouvait clairement te choquer, c'est clairement pas un point négatif. C'est 6 touchdowns et une interception, je crois, en 3 matchs de playoff disputés face à des adversaires qui n'étaient pas non plus gagnés d'avance et des bonnes défenses. Donc voilà, Matthew Stafford me concerne.
C'est là qu'on voit la politesse de Greg, parce qu'il a commencé par « je voudrais pas dire du mal des Lions, mais… » Et derrière, il a dit des mots qui s'apparentent à « ils ont vraiment ruiné sa carrière
». Ben, moi, je vais dire du mal des Lions. C'est Stafford a fait ce que Barry Sanders et Megatron auraient dû faire. Et les Lions sont quand même détruits un des meilleurs running backs et un des meilleurs receveurs de l'histoire. Donc, il mérite de voir Stafford avoir cette bague avec une autre équipe.
Alors, quelle histoire tu choisis? Tu vas sur Stafford aussi, Victor?
Non, moi, je choisis Aaron Donald. Moi, je choisis Aaron Donald parce que je faisais un peu la liste. Pour moi, il y a 5 défenseurs qui sont au-dessus dans l'histoire. Je vais pas vous embêter avec le truc, mais voilà, quand on pense à des mecs comme Reggie White, comme Lawrence Taylor, il y a ce titre quand même. Je parle pas de, par exemple, Minjo Green, etc., parce qu'eux, ils en ont eu plein et très tôt. Donc, on va dire que c'est pas tellement comparable. Mais Reggie White et Lawrence Taylor, ils sont devenus une légende quand ils ont eu cette bague, quoi. Et franchement, Aaron Donald, il gagne enfin cette bague. Et alors, cerise sur le gâteau, il serait MVP, moi. Voilà, mais tu vois, ça, c'est vraiment quand même, même si c'est collectif, et tu peux être un des meilleurs joueurs de l'histoire et pas avoir de bague comme Dan Marino ou autre, mais quand même, avoir cette bague, ce titre, sur un résumé, ça fait toute la différence. Donc, pour le coup, pour moi, c'est Aaron Donald.
Eh bien, on va se quitter là-dessus pour la preview des Rams. Merci, messieurs. C'est comme ça que se termine donc l'épisode 485. Merci à vous de nous écouter. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, la chaîne Twitch /TDActu. Il y a plein de lives en ce moment, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Victor Roulier, @Thielo Radiosa pour les pseudo-Twitter de mes camarades, @TheMatei pour moi-même. On se retrouve demain pour une autre preview. Vous l'avez compris, on parlera des Bengals. En attendant, toute l'actu, c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup de nous suivre. À demain pour la suite de cette preview Super Bowl. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocast Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.